Bonjour, bienvenue dans un monde où le désir s'échappe, loin des couvertures de magazines, un monde où les corps nus ne s'affichent pas, non, au contraire, ils se cachent, se rebellent et résistent, parce qu'ils ne veulent plus, parce qu'ils ne peuvent plus, un monde où le plaisir parfois disparaît comme possédé par sa vie propre, et rien ni personne ne semble pouvoir le faire revenir, encore moins ces injonctions à la une de la presse estivale qui, comme un cri du cœur poussé à l'unisson chaque année, voudrait nous rappeler que jouir n'est plus un droit mais un devoir avec une note généralement mauvaise à la clé. Ce monde, c'est le vôtre, car vous aussi, vous les avez feuilletés, ces magazines, ne serait-ce que par hasard, si, vous les avez vus, ces unes alléchantes, et alors vous aussi, vous avez comparé, tout bas, vous vous êtes dit, et moi, dans tout ça, et moi quand je veux pas, et moi quand ça veut pas. Allez, on s'est tous retrouvés un soir, un matin, une nuit, au bord d'un lit, sur une plage ou qui sait, à l'arrière d'une voiture, je sais pas, faites ce que vous voulez. En tout cas, on a tous au moins une fois hésité, à deux doigts de sauter le pas, on s'est dit j'y vais pas, oui, mais si j'aime pas, oui, mais s'il m'aime pas comme ça, si elle veut pas de moi. Alors imaginez que ces questions-là, vous auriez pu les poser à quelqu'un qui vous aurait écouté, sans vous juger, qui vous aurait aidé à y aller, ou pas, sans honte ni culpabilité, en toute légèreté, en toute liberté. Ce serait bien, hein ? Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on y va ce matin. Alors bienvenue dans le cabinet d'un sexologue.
France Inter, dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
Ils sont un poste d'observation privilégié. Ils sont nos yeux, ils sont nos oreilles, nos petites souris qui, tous les matins, nous rapportent un bout du monde qui nous entoure. Et ce matin, pour lever un coin du voile sur l'intime, laissez-moi vous présenter Elsa Fenner, journaliste, auteure de ce livre « Sexothérapie » au pluriel aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Pendant un an, je vais résumer, hein, une fois par semaine, vous avez décidé de vous faire 4 heures de trajet via 7 moyens de transport, bus, métro et navette comprise, pour atterrir dans la banlieue d'une grande ville incertaine car anonyme et vous faire toute petite dans le cabinet d'une sexologue où de toute façon vous aviez l'impression de prendre trop de place. Et là, pendant 30 à 60 minutes, plusieurs fois par jour, vous avez écouté des inconnus raconter ce qu'a priori vous n'auriez jamais dû entendre. Pardon, mais à quel moment ça vous vient une idée pareille ?
Je ne savais pas que ce serait si compliqué, mais l'idée m'est venue. J'étais journaliste salariée dans une rédaction, j'écrivais tous les jours des articles, j'avais un peu marre de ce rythme et je voulais me lancer dans un projet au long cours, un peu plus, en approfondissant, en prenant le temps du reportage. Et je rêvais, allez savoir pourquoi, de lieux où l'intime s'exprimait.
Mm-hmm. Donc là, ça relève... Vous écriviez pas mal de sujets, pas mal d'articles sur la sexualité de toute façon, c'est un sujet qui vous a toujours intéressé.
Un petit peu, mais j'étais plutôt spécialiste du monde du travail et je travaillais beaucoup sur le corps au travail. Donc il y avait quand même ce rapport au corps, au désir, à l'investissement physique. La manière dont on vit les choses de manière, oui, assez intime déjà. C'était quand même un domaine qui m'intéressait. Et là, j'avais rencontré cette sexologue quelques années plus tôt. Je l'avais interviewée et ce qu'elle me disait me donnait envie quand même d'aller assister à des séances, mais c'était rangé dans un coin de ma tête, ça a ressurgi, je me suis dit j'ai envie d'un reportage au long cours, cette sexologue, ça s'est bien passé avec elle, peut-être qu'elle m'accepterait dans son cabinet.
Alors c'est vrai que ça intrigue tout le monde hein, d'imaginer ce qui se passe dans le cabinet d'une sexologue, d'aller dans tous ces endroits où a priori on ne va pas. Vous, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de les théories sur la sexualité, les théories générales, ça va deux minutes. Sur un sujet comme celui-là, on n'est jamais aussi juste que quand on est sur l'expérience individuelle, c'est ça ?
Oui, j'étais frappée par le décalage en fait entre la méconnaissance finalement même de l'ordre général et théorique sur ce qui se passe vraiment dans les lits des Français et la surabondance de clichés, d'informations, de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les forums de discussion. Je me suis dit on va jamais trancher pour savoir si les gens sont plus libérés qu'avant, si la révolution sexuelle a réellement eu lieu ou non et la thèse inverse qui serait que de plus en plus dans certains endroits à la faveur de certaines religions ce soit au contraire de plus en plus tabou la sexualité. Donc je me suis dit simplement, on va aller voir dans un lieu où on en parle plus librement qu'ailleurs comment ça se passe pour avoir quelques échantillons.
On va gratter un petit peu. Voilà comment je vous cite, vous êtes donc retrouvé pendant un an dans un lieu plus intime que la chambre à coucher, plus privé que le lit, que la moquette du salon ou la machine à laver, dans un lieu où les hommes et les femmes racontent ce qu'ils ont dans la tête quand ils font l'amour, un lieu où se fomentent chaque semaine des révolutions sexuelles tout à fait personnel, de quoi réveiller notre âme de sans-culotte, tiens.
J'aimerais tant te dire ce que cache mon sourire au bout de ma langue, syllabe qui tremble. Mais comment choisir le plus fidèle, le plus riche, le plus beau de tous les mots? Thank you.
peur en exprimant des émotions fortes, tout briser la magie des premiers instants. On pourrait se contenter de citer les plus grands, mais avouons que parfois les mots ne sont pas à la hauteur des sentiments. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. J'aime, j'aime, j'aime quand tu es là. Embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi. Toutes mes paroles s'effilent quand tu me scotches. Ma voix stoppée dans sa course, je chute en plein élan. Tes yeux de sniper m'ont ciblé dans le viseur. Un point rouge placé sur mon petit cœur qui bâtit fort. Oh, fort, oh, fort de moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. J'aime, j'aime, j'aime quand tu es là. Palame, palame, embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi.
Non mais crie-toi, je crie si je veux. D'abord, les onomatopées de Marion Gaume, alias Mesparo, que vous retrouverez en concert à Château en Mayenne le 31 août. Je sais, c'est loin, alors d'ici là, vous restez avec nous. Vous nous écrivez par mail dans quel monde on vit @radiofrance.com ou bien sur Twitter avec le hashtag dans quel monde on vit. Et tiens, puisqu'on parle réseau, allez donc voir sur mon compte Instagram les jolies photos des coulisses de l'émission faites et postées par Rose Bernard. Oui, oui, je fais travailler les autres à ma place. Et moi, ben, je glande, pardi. Enfin, parfois je lis des livres, hein, j'avoue. En lisant le vôtre, Elsa Fenner, sexothérapie, je me suis donc retrouvée plongée, comme tous vos lecteurs, dans les méandres du désir, dans les aléas du plaisir. Alors si vous le voulez bien, on va y emmener les auditeurs de France Inter. Une photo, d'abord, peut-être, pour planter le décor sur votre smartphone que vous avez pris là-bas. C'est le fameux cabinet. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Voilà, je la garde pour moi, cette photo. Il est anonyme, mais... En fait, vous allez être déçus parce que c'est un cabinet très qui ressemble à une infirmerie scolaire. C'est très neutre, donc des murs blancs, des dessins d'enfants au mur parce qu'elle est médecin généraliste par ailleurs, des photos de pays lointains, des dossiers qui s'empilent. Ça ressemble du mobilier IKEA. Ça ressemble vraiment à un cabinet assez neutre. Et là aussi, j'ai été assez déçue.
C'est volontaire, cette neutralité, pour que chacun puisse s'approprier les lieux, peut-être ?
Oui, puis c'est en pied d'un immeuble qui est de style moderne, en rez-de-chaussée, c'est un ancien appartement. Elle est dans la banlieue d'une grande ville, elle reçoit, c'est aussi quelque chose qui lui ressemble. Elle n'était pas tellement dans les intérieurs de psy parisiens, comme on peut voir dans les films français, avec du bois et des tentures et des livres partout, c'était pas ça.
Alors, si j'ai bien compris, à l'arrêt du bus, on prend la direction du centre des impôts, au rond-point, on tourne à droite, on va jusqu'à l'immeuble orangé, voilà, c'est là. Dans le couloir, ça sent le parking, dites-vous. Donc, a priori, tout ça fait pas rêver. Le premier jour où vous arrivez là-bas, on est en plein automne, vous vous sentez comment, vous ?
Je suis très préoccupée par des questions techniques. Donc peut-être que c'est un dérivatif, mais est-ce que l'enregistreur va bien marcher ? Il est tout neuf, j'ai investi, donc je l'essaye au moins 10 fois. Est-ce que les gens vont accepter, les patients vont accepter ma présence ? Comment est-ce que je vais me présenter ? Donc on a convenu que j'attendrai dans la salle d'attente, qui est aussi une toute petite salle d'attente avec des chaises bleues en laine, vous savez, de bureau. Et puis pendant ce temps, le patient ira dans le cabinet, elle demandera si je peux venir. Donc moi j'ai qu'une peur, c'est que tout le monde dise non, que tout le projet tombe à l'eau, qu'ensuite l'enregistreur marche mal.
Ou qui a c'est là où on se dit, maman, pourquoi j'ai eu cette idée ?
Voilà, je me suis dit, qu'allais-je faire dans cette galère ?
Alors, ce qu'on entend dans la salle d'attente, c'est l'eau qui coule d'une fontaine en béton juste derrière la baie vitrée, sur la pelouse, et puis il y a des airs d'opéra. Votre sexologue aime la musique classique, elle aime aussi Eric Emmanuel Schmidt, quand elle peut le lire la nuit, parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle est étrange, parfois, cette sexologue, une blouse blanche, un foulard rose, des lunettes en écaille, c'est un sphinx. qui vous échappe toujours un peu. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi elle a accepté votre venue? Pourquoi est-ce qu'elle a accepté de passer outre le secret professionnel?
Oui, alors, j'ai pas de réponse définitive, mais effectivement, elle m'avait simplement dit qu'elle était à un moment de sa vie où elle avait envie d'un défi. C'est pour ça qu'elle disait oui. Donc, j'avais pas creusé, j'étais trop contente qu'elle dise oui. Mais maintenant, j'ai peut-être compris qu'effectivement, la vie des médecins, elle est parfois très répétitive. Ils sont dans des tunnels, ils ont médecins généralistes, ils ont énormément de patients tous les jours. Donc, elle avait aussi envie d'air frais, d'air extérieur, d'échanges.
Oui, sauf que cet air frais pouvait polluer la thérapie. C'est-à-dire que tout le principe de la thérapie, c'est d'être en tête à tête et de ne pas avoir une tierce personne qui observe, qui écoute et qui pourrait potentiellement juger, ou du moins avoir un avis. Donc elle a pris ce risque-là quand même.
Oui, là je réponds plus à un niveau personnel. Je pense qu'elle avait envie de changement, de nouveauté, je pense. Peut-être que je me trompe. Après, effectivement, la présence d'une troisième personne dans le cabinet médical perturbe forcément.
Oui.
En tout cas, on en a discuté, elle n'est pas d'accord avec ça. Mais moi je crois que oui. Et je pense que les séances se seraient déroulées différemment. Et pour le meilleur et pour le pire, hein, on ne saura jamais ce que ça aurait donné. Mais je pense, d'autant plus que le cabinet était très petit, puis de toute façon il y a une présence supplémentaire. Donc ça change les choses.
Bien sûr. Alors, la bande-son que vous avez choisie pour accompagner cette immersion et ces rencontres, c'est Étienne Dao, et c'est une chanson en particulier, c'est « Le dernier jour du reste de ta vie ». Pourquoi celle-là?
Déjà parce que
le premier jour, pardon, du reste de
oui,
ta vie.
C'est... Nuance est importante. parce que déjà, j'aime beaucoup Étienne Dao, et parce que cette chanson, je l'écoute depuis très longtemps, et je crois que je l'ai un peu entendue plutôt récemment, un peu à la période du livre, et je trouve qu'elle est très pleine d'espoir. Elle dit que ce qui compte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et maintenant, qu'on peut changer à chaque instant de sa vie, quel que soit notre âge. Et donc, j'aime bien le message, j'aime bien les mélodies.
Voilà. Et ça, c'est ce qui accompagne un petit peu l'entrée de chaque patient dans le cabinet de cette sexologue. En tout cas, on pourrait l'imaginer, quoi.
C'est en tout cas ce qui accompagne totalement la démarche de cette sexologue, qui est à chaque moment, le changement est possible et ça vient de nous, de chaque patient.
Eh ben, on va l'accompagner un petit peu, cette démarche.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie confidentiel.
Vous en avez croisé, Elsa Fenner, dans le cabinet de cette sexologue, des gens qui entamaient le premier jour du reste de leur vie. Il y a par exemple cette jeune femme, de 24 ans, elle est ingénieure, elle porte des baskets au lacet d'effet, elle a ses longs cheveux qui lui tombent devant les yeux. Et elle vient, dit-elle, pour sauver son couple. C'est la grande raison pour laquelle on pousse la porte de ce cabinet.
En tout cas, c'est la raison annoncée. Les patients, ça m'a d'ailleurs un peu interpellé, ne viennent que lorsqu'ils sont en couple.
Ah oui, ouais, vous n'avez pas vu de personne.
Il y a Camille qui est célibataire, mais au début elle est quand même dans une histoire.
Oui.
Non, effectivement, ils ne profitent pas d'un moment de célibat, par exemple, pour se dire. Voilà. Donc c'est une histoire de couple importante souvent. Donc soit c'est une problématique qui a été récurrente et cette fois-ci, comme l'histoire est importante, ils veulent
faire
quelque chose, quel que soit l'âge, ou bien c'est une histoire qui est importante mais la problématique est nouvelle et parfois liée aussi à l'émotion qui est trop intense.
Alors en l'occurrence, cette jeune femme, elle est en couple depuis 3 ans, elle aime son copain mais elle n'a plus de désir pour lui, elle a tout essayé, dit-elle, c'est-à-dire les jeux, les jouets, les scénarios, etc. Et puis rien. Cette absence de désir, c'est l'angoisse numéro un chez ceux qui viennent, enfin surtout chez celles, j'ai l'impression, c'est une problématique plutôt féminine.
Oui.
Du moins d'après votre
expérience. Oui, alors là, je ne peux vraiment pas faire de généralité, mais effectivement...
Non, mais ce n'est pas le but du livre, oui. Hein, encore une fois, c'est bien ce que vous dites, c'est de raconter des trajectoires singulières.
Mais effectivement, les femmes venaient plus pour des problématiques en lien avec le désir, qui s'effondraient, mais là, assez rapidement, parce qu'elle est catastrophée, mais elle est avec son copain depuis 3 ans, elle dit « ça m'a toujours fait ça à la fin de la passion ». La sexologue lui demande quand est-ce qu'elle a commencé sa vie sexuelle, à 17 ans, donc c'était pas très ancien, elle n'a pas eu 36 copains.
Parce que ce qui est fou quand même, c'est qu'elle a 24 ans, on se dit 24 ans, c'est quand même tout jeune pour aller consulter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la pression sociale? Est-ce que c'est... parce que normalement, à 24 ans, on se dit que
pour la majorité des personnes, le corps fonctionne bien, donc ça devrait suivre, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à 24 ans, on va chez le sexologue ?
Peut-être que c'est dans la tête, c'est au sens où je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est une perception, c'est-à-dire à partir de quand on se dit qu'il y a un problème, à partir de quand on se dit que ça va mal. Donc il y a souvent plusieurs versions d'une même histoire, et là, elle trouve que ça va mal, alors que, en fait, quand c'est son copain qui initie le rapport sexuel, tout se passe très bien. Simplement qu'elle n'a pas très envie, elle, d'initier le rapport sexuel. Il se trouve qu'elle a fini l'école d'ingénieur qu'ils avaient faite ensemble il y a un an. Elle a commencé par être au chômage, passé un an à chercher du travail. Donc là, elle trouve qu'elle était beaucoup sur le canapé, un peu avachie, avec l'envie, de manière générale, l'envie dans la vie qui est baissée. Elle a trouvé un travail, elle est devenue responsable d'une équipe de 10 personnes, tous plus âgées qu'elle, très rapidement, pris des responsabilités. Donc, ce que souligne la sexologue, c'est peut-être que c'est ce contexte, en une année seulement, du chômage à un poste à responsabilité, à un premier emploi...
Qui écrase le désir.
Voilà, exactement, qui la préoccupe. Donc elle lui conseille de retrouver d'autres espaces pour se nourrir et pour respirer, de refaire notamment des activités qu'elle aimait. Elle aimait peindre, elle aimait dessiner, elle aimait faire du cheval, se balader, voir des amis. Tout ça, elle a complètement rompu avec ses activités de plaisir. Donc il y a peut-être une certaine logique au fait.
Elle remet du plaisir dans sa vie
de
façon générale.
Voilà.
Mais d'ailleurs, vous l'écrivez, quand il s'agit de sexe, en fait, il ne s'agit jamais que de sexe. C'est tout autre chose qui est en jeu. Je pense par exemple à ce PDG donc, qui a 67 ans, qui s'appelle Henri, et qui dit que les érections, ça n'est plus ce que c'était. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, ça dépasse le problème strictement mécanique chez cet homme et qui a une angoisse de vieillir plus générale, c'est ça ?
Alors en tout cas, il pense, comme chacun des patients pratiquement que j'ai pu rencontrer, il arrive avec une explication. Là, c'est l'âge. Donc pour la jeune femme précédente, c'était la fin de la passion. Pour d'autres, ce sera la ménopause. Pour d'autres, ce sera encore la prise de médicaments, une opération.
Donc on s'abrite derrière ça.
En tout cas, il y a une explication qui peut aussi aider, mais qui à un moment enferme. Donc là, c'est l'âge, c'est c'est sans appel. C'est la ménopause, c'est sans appel, voilà. Donc, le sexologue fait un peu varier les propositions, comme je sais pas, dans un test mathématique ou autre, on dit alors si c'est pas ça, c'est ça, c'est un test de logique. Et à la fin, on s'aperçoit qu'on a beau avoir 67 ans, mais de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Donc c'est pas l'âge, parce que sinon ça marcherait jamais. Ah, alors là, il y a un petit moment de flottement qui s'instaure, on est perdu, et de nouveaux possibles sont possibles. Voilà. C'est un peu sa technique, c'est pour ça qu'elle pratique l'hypnose médicale, etc. C'est de faire douter, mais dans le bon sens, de semer la confusion et ensuite d'instaurer de nouvelles associations dans la tête, dans l'esprit, dans le corps.
Sortir des automatismes. En l'occurrence, la sexologue lui conseille à ce monsieur de découvrir d'autres chemins d'excitation. C'est l'une des clés de voûte de la thérapie, c'est de découvrir son chemin d'excitation.
Voilà. Donc, si certaines associations dans la tête, certains chemins d'excitation fonctionnaient auparavant, c'est déjà important de renouer avec eux. Les hommes sont assez... Enfin, ce que j'ai pu observer était plus au clair avec leur chemin d'excitation que les femmes, qui souvent les a mis sous un gros couvercle. Donc, elle peut renvoyer...
Ou sous plein d'enfants.
Sous plein de choses, en tout cas. Très pratique. Un travail ou autre. Et on y retourne. Ça peut être à 17 ans, à 20 ans, à 25 ans. Qu'est-ce qui vous a excité? Qu'est-ce qui vous a fait susciter du désir, que ce soit de l'ordre du fantasme ou du passage à l'acte? Donc, on renoue avec ça. Si ça a fonctionné, ça peut encore fonctionner. Ou en tout cas, on peut chercher...
On va chercher. En fait, l'idée, c'est d'être curieux de soi. Et d'être curieux, voilà, de la manière dont chacun fonctionne, sachant que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas pour le voisin, que ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui ne fonctionnera pas demain. C'est ça, c'est le contraire dans l'enfermement.
C'est sans jugement aucun, si ce qui vous plaît, vous, c'est la littérature japonaise ou au contraire des pornos.
J'en suis férue.
Très trash.
Également.
Peu importe.
C'est tout moi.
Voilà. Ou autre, ou de la musique, ou des odeurs, ou des situations, peu importe. L'essentiel étant de les connaître, le connaître toi-même.
Et de les trouver. Alors, il y a la problématique du désir, puis aussi la problématique du plaisir. En l'occurrence, Camille, vous en parliez, n'en a plus de plaisir. Elle a 34 ans, elle a des faux airs de Jean Seberg, elle est jolie, donc, épanouie dans son métier de scénariste. Et elle dit « Je n'ai jamais été aussi libre, pourtant je n'ai pas d'orgasme avec lui ». En quoi cette jeune femme est-elle emblématique pour vous des patients que vous avez rencontrés et donc des troubles auxquels on peut tous être confrontés?
Alors, peut-être qu'elle est moins emblématique, elle, mais elle s'inquiète parce que elle a un repère qui est l'orgasme, et elle est tout à fait troublée de ne pas l'atteindre, mais elle ne sait pas très bien si elle éprouve du plaisir pareil. C'est aussi une méconnaissance d'elle-même, de son corps, qui est assez qu'elle expose à ce moment-là. C'est-à-dire, elle ne sait pas très bien ce qu'elle recherche, elle ne sait pas très bien si ce gars lui convient, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'elle ne ressent plus. Et est-ce que c'est la pilule qu'elle prend? Est-ce que elle est vraiment complètement perdue, et c'est un peu la leçon principale, c'est qu'il y a une méconnaissance de soi-même et des mécanismes sexuels qui sont pourtant, maintenant il est facile d'acheter un bouquin ou de trouver sur internet quand même des informations, et du coup plutôt que d'aller se documenter ou se renseigner, on panique en fait. On panique assez rapidement.
Et donc tout le travail consiste à se reconnecter avec son corps, à le redécouvrir. La problématique du corps me fait penser à un autre, à un couple que vous avez vu passer aussi dans ce cabinet. Paulo et Virginie, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, alors ils arrivent, lui il a près de 40 ans, elle a un peu plus de 30 ans, il est garagiste, il garde des enfants. Et ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, c'est un peu le premier, leur première relation qui a fonctionné. Ils ont, ça va très bien, ils sont mariés, ils ont deux enfants. Et jusque-là, ils faisaient l'amour tous les jours. Mmh. Donc là, c'est des moments où j'ai failli tomber de ma chaise. Mais voilà, il faut quand même réprimer des petits... La sexologue, elle, oui, voilà, salaud. La sexologue, elle reste totalement impassible qu'on dise « oui, je rêve de coucher avec des petits garçons » ou ça fait... Voilà, quel que soit le discours, elle est complètement impassible.
Elle fait «
Voilà, mais encore, c'est-à-dire. Et donc là, depuis un an, tout s'est arrêté alors qu'avant, c'était tous les jours. Et ça s'est arrêté, mais totalement. C'est la jeune femme.
Vous avez envie de leur dire, mais estimez-vous heureux ou un truc comme ça, quoi.
Oui,
terminé,
enfin,
ce sera 40 euros.
Si,
et puis,
si
voilà.
Ce n'est que là, c'est quand même, elle est très inquiète parce qu'elle n'a plus du tout envie dans la journée. Elle peut avoir envie, mais quand elle rentre le soir, une douche et au lit, comme elle dit. Oui. Et en discutant, on s'aperçoit qu'elle a subi 5 opérations dans la sphère, pratiquement toutes du bas-ventre.
Donc, en très peu de temps.
En très peu de temps, puisque tout était. Elle avait pris beaucoup de poids, il avait eu un anneau, ça s'est mal passé, la pilule ne marchait plus. Enfin, bon, elle a fait 2 IVG, etc. Ça a été. Tout était lié en plus. Le corps a pris vraiment cher parce qu'en plus, elle est passée par des tas de poids physiques, hein, voilà, de kilos. Et donc, elle ne se laisse pas le temps de souffler. Et c'est ça de lui dire, la sexologue, c'est peut-être son corps fait grève.
Ouais.
Momentanément, surtout dans cette sphère-là, parce que dans sa tête, ça, elle comprend qu'elle a envie, mais le corps, il dit, je souffle un peu. Et donc, et là, elle comprend tout à fait, au début, elle est paniquée, et elle comprend tout à fait qu'il va falloir réharmoniser le corps et la tête.
Alors, cette sexologue, elle est vraiment dans l'accueil, dans l'écoute, comme vous le disiez, sans aucun jugement. Elle laisse venir à elle et elle se dit, je ne sais pas. Donc, j'écoute. Et puis, de temps en temps, elle propose des exercices pratiques, dont un exercice à ce couple. C'est l'un de ses exercices favoris, c'est pénétration interdite. Pendant X temps, par contre, caresse tous les jours ou à peu près. Pourquoi ?
C'est comme ça que vous l'avez compris ?
Oui.
Et mise en œuvre.
Alors ça, je ne sais pas. Je sais. Avec qui, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça ?
Alors, elle ne l'a pas inventé. C'est Master et Johnson voilà, qui ont quand même proposé cette... après, elle a fait sa propre cuisine. Mais effectivement, je pense qu'on comprend l'idée quand un homme arrive, notamment parce qu'il a des problèmes d'érection et qu'il focalise dessus. Donc, c'est la spirale infernale. Et du coup, l'idée est de détourner l'attention de ce qui pose le problème, et souvent la pénétration. Donc l'érection, la pénétration, le plaisir à la pénétration, donc on l'interdit.
Et qui est problématique aussi pour les femmes,
voilà.
Ça n'est jamais anodin d'être pénétré, donc ils peuvent avoir, comme cette Virginie, à un moment donné, ça se bloque sur
tout
la
à
pénétration.
Fait. Ouais. Voilà, donc au moins on l'interdit, et c'est un médecin qui l'interdit, et quelquefois elle propose de l'écrire.
Oui, elle fait une ordonnance.
Et le seul fait de le proposer, la personne change de couleur en face, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça s'accompagne, l'interdiction de la pénétration dans ces cas-là, dans une consigne qui est alternance des rôles passifs et actifs, et souvent d'abord que sur les zones qui sont un peu sensibles, et de plus en plus sur les zones de plus en plus sensibles, on lève l'interdiction. Et en fait, souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens reviennent et ils ont, comment dire, enfreint l'interdiction. Voilà.
Et dire qu'au moment où on interdit la pénétration à titre exceptionnel, des centaines de Chinois flippent de ne pas réussir à se marier avant leurs 25 ans. Comment ça se passe ailleurs, la rencontre amoureuse? Ça veut dire quoi, la liberté sexuelle à l'extérieur de nos frontières? Ouh là, on décolle. Ouh là, oui, on s'envole porté par une voix qu'on dirait droit sortie d'une alcôve, tiens.
In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasure, underrated treasures, I'm glad there is you. I live to love, I'd love to live with you beside me. this world so new, I muddle through with you to guide me in this world where many, many play at love, but hardly any stay in love. I'm glad there is you.
C'est notre programmateur musical, l'immense et immensément tatoué Joop, qui vous caresse les oreilles ce matin avec Julie London. I'm glad there is you. Oh oui, on est content que vous soyez là à nous couver des yeux derrière la vitre de ce studio. À la technique Mathias Aléon du coup. Non, pardon, Mathias Aléon. À la réalisation, Marion Lelay. À la programmation, Valentin Pérez et Mégane Fleury. Et un peu partout, parce qu'on a bien besoin d'elle, Rose Bernard et Elisa Bondarenko. Vous êtes prêts là, tout ce temps que vous êtes? Eh ben, on y va.
Dans quel monde on vit ? Julia Voice sur France Inter.
Elsa Fenner, dans votre livre Sexothérapie, on croise aussi la route de Madeleine, 40 ans, infirmière qui ne se reconnaît ni dans le libertinage débridé, du moins en apparence, de ses collègues échangistes, ni dans le modèle de sa mère qui était encore vierge à 31 ans. Est-ce qu'on en est encore là, tous plus ou moins coincés entre deux normes ?
Ah, peut-être. J'ai pas vu ça comme ça, mais peut-être, effectivement. En tout cas, elle le formule immédiatement.
Ouais.
Et elle a perdu son désir pour son mari. Elle se demande si c'est après les enfants, les épisiotomies, les patients, elle est infirmière en hôpital psychiatrique.
Mais il y a une sexualité quand même dans un contexte social, dans une ambiance. Est-ce qu'on peut parler réellement de libération sexuelle ? Votre sexologue répond, elle dit non, on parle plutôt de libéralisation des mœurs, mais encore.
Oui, du coup de commercialisation, ouais. Et effectivement à base d'objets. Mais oui, on a peut-être tendance à penser que tous les fantasmes maintenant ont une communauté en ligne, je ne sais pas si vous aimez, je sais pas quoi, mais
les chats siamois.
Voilà, donc vous avez une communauté en ligne de voilà,
les courgettes.
Voilà, c'est ça. Ou autre, les moignons, ça existe.
Ah non,
si,
ah non,
si,
non,
si,
non,
si,
non,
si, ça
ah
existe.
Non.
Mais donc vous pouvez trouver, donc on pourrait peut-être penser que à ce moment-là tout est réalisable, tout est faisable, il y a plus de raison de s'embêter. Sauf que ça se passe pas exactement comme ça et que c'est pas parce qu'on aime les courgettes ou les moignons que ça va.
C'est et une que libération. C'est un de liberté.
Voilà. Non, c'est pas forcément de la même manière.
Pas forcément.
Que c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de connaître ces chemins d'excitation. S'il y a souffrance, je veux dire, il y a aucune obligation à les connaître, si ça va très bien comme ça.
Et les courgettes, ça peut faire mal, pardon.
Par ailleurs, et donc surtout pas d'obligation, c'est peut-être le message essentiel de cette émission. Mais donc la sexologue intervient où il y a un problème quand effectivement la personne en souffre, quel que soit le problème.
Et si finalement cette notion de liberté était toute relative, si elle n'était que culturelle, on va poser la question à la journaliste Nathalie Gros qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une série de documentaires diffusée dans l'effet papillon sur Canal+, Comment j'ai pécho. Est-ce qu'on peut traduire pécho ?
Alors, comment j'ai pécho, ça veut un peu dire normalement comment j'ai rencontré l'amour.
Ouais.
Mais je suis pas sûre
de façon plus directe,
voilà,
on va dire.
On va dire de façon plus directe par l'étape numéro 1 qui est la chope, le bisou,
l'appel, la galoche, voilà. Alors, en l'occurrence, vous êtes parti pour les trois premiers numéros, pécho, donc, en Chine, en Colombie et au Liban. Un Liban qui, sur le plan des libertés amoureuses et ou sexuelles, est à peu près aussi complexe que la composition de son parlement, donc bon courage. Qu'est-ce qui, pour vous, parmi les personnages que vous y avez rencontrés, qui incarnait la liberté, qui incarnait la transgression ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la liberté, c'est aussi parfois la superficialité. Ça peut être aussi le fait de ne pas se soucier finalement du regard des autres, le fait justement de se libérer des normes.
Le droit à la légèreté.
Voilà, et parfois peut-être au fait d'être bête, ou je ne sais pas, de ne pas en tout cas correspondre à ce qu'on attend, ce que les parents attendent de nous, ce que la société attend de nous. Et par exemple, je pourrais penser à les filles que j'ai rencontrées là-bas. En Colombie, je penserais à Kelly.
Ah, je parlais du Liban, en fait.
Ou au Liban, justement, je pensais à Myriam Klink, qui est la bimbo par excellence. Ouais. Et qui pourtant, quand on parle avec elle, il y a du fond, quoi. Effectivement, elle est libre. En tout cas, elle se sent libre. Alors, Elle rentre dans un moule qui est celui de la bimbo, donc elle est hyper apprêtée, elle est dans la sexitude absolue, mais au final, elle fait ce qu'elle veut, et ouais, peu importe ce qu'on pense d'elle.
Et je pense aussi à cette jeune musulmane que vous croisez, ouais, et qui a beau être musulmane pratiquante, qui transgresse un certain nombre d'interdits.
Alors, c'est marrant, parce que la transgression, à nos yeux, elle est minime, c'est-à-dire bien qu'elle, effectivement, elle a peut-être fait un ou deux bisous à son amoureux avec qui elle est depuis 3 voire 4 ans, ouais. Ils ne sont pas mariés.
Sauf que c'est interdit.
Alors, c'est interdit, mais elle, c'est comme un accommodement raisonnable, on va dire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle s'est mis sa propre règle. Elle s'est dit, bon, je l'aime. Ça doit quand même être difficile, j'imagine, de se côtoyer sans s'embrasser, se toucher, se dévoiler, alors qu'on s'aime, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on passe du temps ensemble. En plus, dans cette ville de Beyrouth, sur la corniche, avec cette vue magnifique, le soleil, etc. Et en plus, les communautés qui se croisent. Donc, c'est pas non plus une société entièrement voilée, c'est pas une société islamique totalement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un melting pot total. Ouais. Et elle s'est dit, bon, allez, un petit bisou. Mais je suis pas sûre que sa mère ou son père soient au courant quand elle me le dit. Hein.
Alors, en même temps, dans ce Liban-là, c'est aussi un Liban où l'homosexualité est toujours sévèrement réprimée. Vous avez par exemple ce personnage de professeur de danse orientale.
Ouais, Alex. Ouais.
Alex, et c'est étonnant parce qu'il fait un spectacle sur son homosexualité et en même temps, il raconte tout ce qu'il subit au quotidien. Donc, c'est une liberté ou pas ?
Alors justement, c'est un peu ce qui m'a surprise, moi, quand je suis arrivée au Liban. C'est que vraiment, je m'attendais à découvrir l'oasis de liberté au Moyen-Orient. Et c'est un pays qui est plein de contradictions. C'est-à-dire qu'Alex l'explique bien, d'ailleurs, parce que je lui dis, est-ce que vous ne voudriez pas vivre ailleurs qu'au Liban, ouais, fuir Beyrouth et pouvoir enfin être homo de 24 heures sur 24, comme vous le souhaitez. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que tu sais quoi, Nathalie ? Je suis homo 24 heures sur 24, comme je le souhaite, parce qu'en fait, je louvoie, c'est-à-dire que, ok, alors, c'est interdit, ok, c'est passible d'un an de prison, mais en réalité, il y a plein d'espaces où on sait très bien que là, on ne sera pas embêté. Ouais. Et c'est quand même une société qui se joue un peu de ces interdits, qu'en fait, c'est l'idée de garder la face. C'est-à-dire, on est un pays du Moyen-Orient, on est un pays multiconfessionnel, non, l'homosexualité n'est pas légalisée. Mais au fond, si on l'interdit réellement et si on la réprime réellement, totalement, à 100% comme nos voisins, eh ben on va perdre ce qui fait notre identité. Donc c'est une forme d'accommodement raisonnable, encore une fois. C'est cette façade et cette réalité qu'on découvre quand on va au Liban qui est tellement formidable, quoi.
Alors qu'en Chine, la sexualité, on en parle quasiment pas, c'est-à-dire qu'elle est contrainte dans un cadre très strict, c'est celui du mariage. Vous êtes rendu dans une agence matrimoniale, on va en écouter un extrait.
C'est votre premier rendez-vous, et moi, c'est la première fois que je rencontre des gens qui se rencontrent pour la première fois. Qui vous a inscrit dans cette agence ?
Mes parents.
Moi aussi.
Vous n'avez que 28 ans. Pourquoi être si pressé ?
Parce qu'en Chine, les filles se marient généralement avant 25 ans. Il y a une expression pour décrire celles qui n'y arrivent pas. C'est Shengyu.
Shengyu, donc les restes, voilà, ça fait rêver. Pas de place, Nathalie Gros, pour l'éclosion du sentiment, encore moins du désir, on les sent très contraints.
Oui, alors ils sont très contraints, mais ils sont totalement volontaires. C'est-à-dire que c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que ce que je leur dis, en fait, dans cette agence matrimoniale, ce qui est impressionnant, c'est qu'on croise des jeunes. Un peu comme ce que vous disiez, Elsa, sur le cabinet de sexologue où il y a une jeune fille de 24 ans, c'est que là, il y a des gens qui sont inscrits dans cette agence matrimoniale qui ont moins de 20 ans. On se dit quand même, c'est pas possible.
Donc c'est la pression au mariage.
Et ils sont inscrits par leurs parents. Et ça leur pose aucun problème, c'est-à-dire que, ok, à la limite, ça leur fait un truc en moins à faire, quoi, à régler. Ils peuvent au moins se concentrer sur leurs études ou sur toute autre chose, les jeux vidéo ou autre. Et en fait, effectivement, leur but, c'est de trouver un mari ou une femme. C'est clairement pas de rencontrer l'amour. Ou en tout cas, ils vont parler d'amour, mais on sent que c'est pas le coup de foudre lié à la passion comme nous, on peut l'idéaliser, qui est peut-être une idée fausse aussi, une construction d'ailleurs. Hein, cette idée qu'on a du mariage par coup de foudre chez nous. Chez eux, c'est encore l'idée des mariages arrangés, mais ça les dérange pas. Au contraire, ça les arrange justement.
C'est là où on voit à quel point la sexualité, l'intimité, l'amour, c'est des questions aussi universelles que éminemment culturelles, puisqu'à des milliers de kilomètres de là, on a donc la Colombie. Vous croisez Kelly, dont vous nous parliez tout à l'heure, et qui vous dit la soirée idéale. Pour moi, je cite, hein, c'est un verre, un bisou et un coup de bite. C'est ça la libération sexuelle ?
Alors, elle le dit, j'adore, j'ai envie de le dire en espagnol aussi.
Allez-y.
En version originale, elle dit...
Je le fais en VO.
Un beso, pico y bye. Mm-hmm. C'est un verre, un bisou, un coup de bite et salut. Et c'est vraiment
deux
la traduction.
Deux fois sur l'antenne d'Intercube ce matin. Trois.
Alors moi, j'étais complètement estomaquée. Je me dis, ah ouais, quand même, elle est cash, Kelly. Dis donc, on va bien s'amuser ce soir. Bon, il y a pas, d'ailleurs, elle a pas tellement conclu ce soir-là. J'étais un peu déçue. Elle a fait des promesses qu'elle
que
n'a pas
gueule.
Tenues.
C'est
voilà, exactement.
Dit.
Non, et effectivement, elle est libérée. Mais moi, elle m'a rendue triste. C'est-à-dire que, en fait, d'assumer à ce point que ce qu'on cherche, un, c'est un coup de bite. Deux, c'est que ça. C'est mm-hmm. vraiment dénué de tout de toute la sentimentalité qui peut être liée.
D'humanité, ouais.
Voilà. Moi, ok, si c'est ça la libération, je suis pas sûre d'en vouloir.
Alors, l'une comme l'autre, Elsa Fenner et Nathalie Gros, vous avez donné de votre personne, si je puis dire. Vous, effectivement, vous voyez l'image, Nathalie Gros, et vous, Elsa Fenner, vous avez passé un an dans ce cabinet de sexologue. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre où vous vous êtes dit, je suis pas à ma place? Un moment ou un autre où vous êtes sentie gênée? Parce que les démarches journalistiques classiques consistent à rester un petit peu hors champ. Nathalie, Elsa, qui veut ? Nathalie ?
Moi, il y a eu deux moments, je vais raconter rapidement. Un, quand je suis en Chine, à table avec ce couple, dont la femme a fait appel à une agence de détectives privés pour éloigner la maîtresse de son mari, puisque divorcer, c'est absolument inenvisageable en Chine, quand on a un enfant et qu'on a passé 30 ans. Et elle, je me retrouve à table avec leur petite fille qui a 4 ans, non, 8 ans, le mari, la femme, et le mari qui fait acte de contrition, qui est en train de me raconter pourquoi il a trompé sa femme et pourquoi il est rentré au bercail. Alors là, on se dit vraiment, qu'est-ce que je fais là? Et l'autre moment, c'est quand, effectivement, vu que je me mets en scène, j'ai un rendez-vous, un date amoureux avec un jeune homme. Et je sais, hélas, pour ce pauvre Jade, que bien évidemment, je ne
Choperai pas. Pas bien. Elsa Fenner, un moment où vous vous êtes sentie un peu gênée, un peu dans une... Parce que c'est un peu voyeuriste, pas comme démarche, mais ça pourrait l'être.
Si, c'est complètement voyeuriste, mais donc j'étais tout le temps gênée, oui.
Ouais, tout le temps, mais vous avez quand même tenu un an. Nathalie Gros, c'est vous qu'on va regarder à la fin du mois d'août. Comment j'ai pécho sera diffusé les 28, 29 et 30 août dans l'effet papillon sur Canal. Merci d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Avec vous, Elsa Fenner, c'est Frank Sinatra qu'on va observer de près, de tout près maintenant. Sinatra, un rhume de Gaetelès. C'est le texte qui vous a accompagné pendant votre travail. Pourquoi, rapidement, avant qu'on l'entende?
Pour l'écriture essentiellement, ça devient un peu technique. Non, c'est un portrait donc de Frank Sinatra par un journaliste qui n'a pas pu le rencontrer. Voilà, c'est le principe du portrait. Et donc, il a fait un portrait par le vide, par tout ce qui était autour, pour se rapprocher le plus près de lui. Donc, il a pu l'observer, mais Sinatra a toujours refusé de lui répondre. Et il a constaté que, bon, à l'époque, il faisait la pluie et le beau temps à Sinatra. Sinatra avait un rhume. Voilà. Ouais. Et donc l'industrie du disque tremblait. Et c'est comme ça qu'il a anglé son papier. Il est extrêmement bien écrit. Moi, j'avais besoin d'inspiration pour décrire mes personnages et notamment pour, désolée d'entrer dans la cuisine interne, mais de faire des transitions entre des choses très concrètes que je pouvais observer, des choses plus abstraites qui étaient de l'ordre de l'information générale sur la sexualité en France. Et ce journaliste américain y arrive merveilleusement bien. Le temps s'arrête. On a une digression qui n'a pas l'air d'être une digression et on le suit n'importe où.
Dans un coin sombre près du bar, un verre de bourbon dans une main et une cigarette dans l'autre, Frank Sinatra est debout entre deux blondes, jolies, mais plus franchement jeunes. Assises, elles attendent qu'il veuille bien dire quelque chose, mais lui reste silencieux. Il n'a pratiquement pas ouvert la bouche de toute la soirée, et à l'heure qu'il est, le regard perdu au-delà du comptoir, dans la pénombre de la grande salle enfumée, il paraît encore plus impénétrable. Les deux blondes et les quatre hommes debout autour de lui, dans ce club privé de Beverly Hills, savent qu'il est préférable de ne pas forcer la conversation quand il reste ainsi muré dans un silence renfrogné. Et il faut bien dire qu'il en a souvent été ainsi au cours de cette première semaine de novembre, alors que dans un mois, il aura 50 ans. Il est inquiet à l'idée d'être pendant une heure la vedette d'un show intitulé Sinatra, un homme et sa musique sur la chaîne NBC. L'enregistrement débutera dans quelques jours et il va devoir chanter à 18 reprises alors que sa voix est défaillante, enrouée et mal posée. Sinatra est malade. Il souffre d'une affection parfaitement bénigne pour le commun des mortels. Mais quand c'est Sinatra qui est concerné, ça suffit à déclencher chez lui un sentiment d'angoisse, de déprime profonde, de panique, voire une colère noire. Frank Sinatra est enrhumé.
Sinatra a un rhume, texte lu par Franck Cognard. Bien du plaisir. Elsa Fenner, quand on a passé un an dans le cabinet d'un sexologue, on en ressort comment ?
J'ai appris des choses. Ouais. Je suis très contente de l'avoir fait. J'ai vu ce qu'il y avait un peu dans la tête, dans le crâne de mes contemporains.
Mais dans le vôtre, il s'est passé quoi dans le vôtre de crâne ?
J'étais rassurée, angoissée.
Parce que ça renvoie à soi.
Ça renvoie forcément à soi. À la sexualité, mais pas seulement, c'est-à-dire à la manière dont on aborde les choses. Tout le monde arrive en ayant l'impression qu'il y a une montagne devant lui. Son problème est une montagne. Et parfois, moi, je me suis dit, oh, c'est pas vraiment une montagne, ça va, mais je suis pas la seule à me faire des montagnes de rien. Parfois, je me suis dit, ah oui, là, sacré, c'est un peu lourd. Mais moi aussi, j'ai du lourd. Donc voilà, ça renvoie, c'est un benchmark, en fait, par rapport. J'ai dû faire ça pour me rassurer. J'étais assez rassurée, mais pas que.
Bien, quant à nous, alors que depuis près de 45 minutes maintenant, waouh, 45 minutes quand même, pas mal, on vient de partager un peu d'intime, un peu de vous, un peu de nous. Maintenant qu'on s'est frotté, qu'on s'est colleté les uns aux autres, et bien, vous connaissez la suite, une cigarette évidemment, une cigarette après le sexe.
Just watching cityscapes turn to dust. Filming helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in your baby, tell me why. Got the music in your baby, tell me why. The love is wrapped in your arms. You've been hiding them in hollowed out pianos left in the dark. Got the music in your baby, tell me why. Got the music in your baby, tell me why.
Cigarette after sex, apocalypse, ils ont raison, les Texans, c'est dur de se dire adieu. Mais nous, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, alors on en profite.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Et dans quel monde on vit l'été, hein ? À quoi ressemblent vos matins, là, pendant que vous nous écoutez ? Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Racontez-nous vos étés particuliers. Partagez vos souvenirs avec nous sur notre répondeur au 01 56 40 55 35. On les diffusera dès lundi. En attendant, Elsa Fenner, dites-nous votre été particulier à vous. C'était où ? C'était quand ? C'était comment ?
Sans lien avec l'objet qu'on m'a demandé d'apporter, d'accord. Donc moi, j'ai apporté un pashmina que j'ai acheté en Inde, à Dharamsala. Voilà, donc c'était un été en Inde. Mais à Dharamsala, il fait une température quand même agréable.
C'était quand ? Qu'est-ce que vous y faisiez là-bas ?
C'était il y a 2 ans. C'était un reportage que j'ai adoré. C'est pour ça que je voulais en parler. J'étais envoyée par un magazine féminin. Je suivais une dizaine de médecins français, que des femmes, qui allaient rencontrer leurs homologues tibétains. Mmh. Donc la rencontre au sommet, dans un dispensaire qui était tenu par la sœur du Dalai Lama, puisque c'est la ville des Tibétains en exil, Dharamsala, et ces femmes qui sont médecins pratiquent, après 8 années de médecine, hein, tout à fait comme ici, mais d'une manière, effectivement, la médecine tibétaine qui est proche de la médecine ayurvédique, si on veut, enfin en tout cas dans l'approche, les médecins français allaient se laisser inspirer par cette approche plus holistique qui prend le corps dans son entier, qui n'isole pas les organes, c'est une médecine gratuite, le dispensaire il est fermé, enfin la salle de consultation est fermée par un petit rideau où tout le monde peut venir et donner son avis. Oh, bon, lui, qu'est-ce qu'il a ? Donc, c'est, la maladie a une place, a un sens dans la communauté et personne n'est coupable d'avoir telle maladie. Tout est remis dans un ensemble. Il y a un sens qui dépasse la personne et l'organe. Et des techniques également, proches notamment de l'hypnose, dans la prise de pouls et autres, qui sont très intéressantes.
Et c'est dans ce contexte-là qu'on vous offre ce châle, pardon, ce pashmina qui recouvre actuellement vos épaules, qui a l'air doux, qui est d'une couleur, je dirais, on dit quoi ? On dit taupe ? On va dire tout. Je vous jugerai. On mettra la photo sur les réseaux sociaux. Vous jugerez. C'est là qu'on vous a offert ce pashmina ?
Oui, que je l'ai acheté parce qu'il était.
Ah, c'est pas un cadeau ?
Non, il est bon. En laine.
En même temps, vous avez le droit de vous faire des cadeaux.
De l'Himalaya. C'est simplement que je voulais rapporter. On a passé d'extrêmement bons moments. C'est difficile à raconter, mais ces femmes, elles avaient l'air de paysannes avec la peau toute ridée et des tenues de montagnard traditionnelles. Et elles étaient d'une sensibilité et d'une approche du patient tellement différente de la nôtre et tellement puissante qu'effectivement, j'avais envie aussi de rapporter un peu un souvenir de cet esprit-là, parce que toutes les médecins qui étaient avec moi, qui avaient beau travailler à l'Institut Curie, au Kremlin Bicêtre ou ailleurs, étaient complètement partis, comme moi, dans les hautes sphères.
Alors, je vois quelqu'un le regarder avec des grands yeux gourmands, ce pashmina Alexandre Comte, bonjour.
Bonjour Julien.
Comme chaque semaine, vous avez consciencieusement récolté tous les objets ramenés par nos invités, les clés de Benoît Cohen, le collier d'Olivia Mokieyevski, le phare d'Isabelle Rivert, la poupée de Véronique Sousset et donc le pashmina d'Elsa Fener. Dans votre shaker personnel, Alexandre, dans votre drôle de tête où vous vivez plusieurs vies, vous mélangez le tout et hop, ça y est, vous nous embarquez pour une nouvelle escale de votre été si particulier.
C'est un phare en plein milieu du désert. Oubliez les vagues, ce sont des dunes à perte de vue. Et quand les tempêtes frappent, ce ne sont pas des tourbillons d'écume mais du sable brûlant qui cinglent les parois de ce phare oublié. Un gardien y veille depuis bien longtemps. Lui seul possède le trousseau de clés qui en ouvre les portes. La nuit, il observe le va-et-vient hypnotique des lumières qui éclairent le désert infini et guide parfois des aventuriers assoiffés ou des voyageurs égarés à la recherche d'une oasis. C'est un spectacle dont la poésie éternelle a longtemps suffi à le nourrir. Pour seule compagnie, il a une poupée. Il l'a trouvée un jour au pied d'une dune, seule au monde, délaissée, comme lui, il l'a adoptée. Il ne lui a pas donné de nom, elle silencieuse, pas un mot, jamais, mais il l'apprécie. Il n'a qu'elle, enfin, il n'avait qu'elle, jusqu'à la nuit dernière. La nuit dernière, il a vu quelqu'un s'approcher. Au début, il a eu peur. Qu'on vienne l'attaquer, qu'on vienne l'embêter, qu'on vienne lui parler. Il n'imaginait pas qu'on venait pour l'aimer. Du haut de son phare, il a observé la silhouette s'avancer doucement. Peu à peu, il a mieux distingué ses traits, sa démarche. C'était une femme. Arrivée en bas de la tour, qu'il avait bien pris la peine de fermer à clé, elle a frappé de petits coups, timides mais déterminés. Il a longtemps hésité avant d'ouvrir, mais elle a insisté. Elle doit avoir soif, a-t-il pensé, et il savait que les nuits du désert étaient glacées. Alors elle s'est décidée à lui ouvrir. Elle ne s'est pas présentée, elle est entrée sans prévenir dans sa vie. Elle portait un collier en bois, comme on en voit souvent dans le désert, mais il devina à son chef qu'elle ne venait pas d'ici, qu'elle venait de loin, de très loin. L'étoffe était si belle et semblait si douce qu'il avait envie de la toucher, mais bien sûr jamais, jamais elle n'aurait osé. Elle a souri, c'est un pashmina, a-t-elle dit, prononçant ses tout premiers mots. Sa voix était douce, rassurante, il ne savait pas quoi répondre, alors elle a continué, elle lui a raconté qu'elle l'avait tissé à partir de poils de chèvre du Cachemire, il n'avait jamais entendu parler du Cachemire. « Je t'y emmènerai un jour », a-t-elle dit. Elle le tutoyait, ça y est, déjà. Elle semblait à l'aise, elle semblait savoir qui il était, ce gardien de phare abandonné, seul, avec sa poupée. Elle lui a dit qu'il fallait couper les poils du cou de la chèvre, car c'était les plus doux. Elle a pris sa main, il a pu toucher, et oui, c'était doux, très doux. Elle semblait fatiguée, il a laissé se coucher, lui est resté debout toute la nuit, à regarder, hypnotisé, les lumières, balayer son désert. Il avait déjà compris qu'elle allait rester. Alors il a dit au revoir à sa poupée. Il l'a prise dans ses bras, l'a déposée au sommet d'une dune pour qu'elle ait une belle vue. Il lui a dit qu'il était temps pour eux de se séparer, que les années partagées en silence avaient été merveilleuses, qu'il ne l'oublierait jamais, mais qu'il était temps pour lui de parler à l'un des siens. Elle n'a rien répondu, mais elle a semblé comprendre. Le lendemain, la femme était toujours là. Ils prirent le temps qu'il faut, quelques mois suffirent. Ils firent un enfant. Ils se promirent qu'il lui offrirait un beau trousseau pour qu'il puisse ouvrir toutes les portes de la vie, qu'aucun cadenas, qu'aucune serrure ne lui résisterait, qu'il aurait tous les choix, oui, toutes les routes, rien que pour lui. Qu'il lui offrirait des tas de colliers, de bois, de perles, de fleurs. Et puis des poupées de chiffon, des poupées qui font oui, des poupées qui font non. Qu'il trouverait des chèvres à qui emprunter quelques poils de cou, avec lesquels il tisserait de doux pashmina pour que jamais la nuit leur enfant n'ait froid. Et que tous les trois, ils regarderaient tous les soirs la lumière du phare jusqu'à ce que le gosse devienne grand et eux, vieux. Alors, ils le laisseraient partir, leur gamin, trouver son chemin, quitter le désert, retrouver les autres, les humains, conquérir ses propres terres. Ils seraient fiers de lui et leur cœur serait serré, bien sûr, mais il faudrait bien se quitter, le laisser s'envoler et lui souhaiterait simplement la plus belle des vies. Puis, ça serait à leur tour de partir, de construire un bateau pour rejoindre la mer, pour voyager, comme elle lui avait promis, découvrir le Cachemire et d'autres choses encore, voyager presque au hasard, marins perdus, amoureux et perdus, seulement guidés par la lumière des phares. Ils ont tenu toutes leurs promesses. Aux quatre coins du monde, les gardiens de phare aperçoivent parfois leur bateau, sans savoir qu'à l'intérieur se tient l'un des leurs, un autre gardien venu, lui, du désert. Quant à leur enfant, je le connais, c'est un ami. Il est discret et heureux. Il porte des pashminas et un collier en bois. Il ne veut pas que je dise son nom. Il m'a juste demandé de raconter l'histoire de ses parents, de rendre hommage au phare du désert où il est né, où il a grandi, et dont plus personne aujourd'hui ne possède la clé. J'espère l'avoir bien fait.
Oh que oui, merci Alexandre Comte. On retrouve bien sûr votre chronique, votre pêle-mêle sur le site internet de France Inter, franceinter.fr. Vous pourrez podcaster toute l'émission autant de fois que vous le voulez jusqu'à lundi matin, 9h. Je vous souhaite un très très bon week-end d'ici là. À vous aussi bien sûr, Elsa Fenner, merci d'être venue nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Sexothérapie, aux éditions du Seuil. Restez tous sur France Inter et faites le plein de bonnes ondes. À lundi.